Est-ce qu'il y en a qui m'entendent pas au fond? Oui? Non? Bon, ça va aller. Bon. D'abord, merci pour votre invitation. Voilà, je suis ravi de parler à des étudiants et des étudiants de l'ENS. J'espère qu'il y a peut-être quelques historiens qui sont parmi vous. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de scientifiques, alors voilà. J'espère qu'une propos ne sera pas trop obscure pour vous. L'idée de proposer cette causerie sur donc politique et sainteté autour des martyrs de la Révolution et de la Commune est partie de deux événements qui ont eu lieu dans le courant de cette année. Les questions historiques passionnent peu, c'est le moins qu'on puisse dire, les catholiques, donc c'est pour ça aussi que je me réjouis de parler devant vous. Et l'opinion publique en général s'intéresse assez peu à ce qui peut toucher l'histoire de l'Église, sauf pour des thèmes assez bateaux que tout le monde connaît. Donc, le premier semestre de cette année, puis durant l'été, il y a deux événements importants qui ont marqué l'actualité. Il y a eu au mois de mai, je pense qu'à peu près tout le monde a suivi, en tout cas de près ou de loin, c'était la fin du 150e anniversaire de la Commune, et il y a eu une procession organisée par le diocèse de Paris en l'honneur de ce qui a été appelé les martyrs de la Commune. Ça a eu lieu donc, dans les rues de Paris, et la procession a été attaquée en fin de cortège par un autre cortège. Il y a eu un croisement, on va dire, de deux cortèges. L'un était donc le diocèse de Paris, et l'autre, comme c'était la fin du mois de mai, et il y a tous les ans commémoration du massacre de Communard par les troupes du gouvernement de Versailles. Ça a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise. Et la commémoration des Communards se terminait au moment en fait, où la marche du pèlerinage du diocèse de Paris passait. Donc il y a eu une conjonction malheureuse et la marche parisienne a été s'est faite attaquer. Et il y a eu dans la presse, notamment dans La Croix, mais aussi dans Le Figaro, enfin donc il y a eu un certain nombre de tribunes qui ont, on va dire, ça, il y a eu une certaine agitation au sein du catholicisme français avec des opposants et des personnes qui étaient favorables à l'idée qu'il puisse y avoir une procession, quelque chose organisé en l'honneur des martyrs de la Commune. Et d'autres trouvant que c'était absurde, que c'était une provocation, que c'était le signe d'une politisation du catholicisme français, notamment parce que c'était dirigé par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Je vais avoir l'occasion de revenir sur cette question, même si donc le deuxième point qui a agité l'opinion pendant assez peu de temps, mais qui a marqué cette année, c'est que tous les ans, il y a un pèlerinage qui est organisé par le diocèse de La Rochelle en l'honneur de prêtres qui sont morts pendant la période révolutionnaire. C'est un pèlerinage qui a lieu à l'île Madame, c'est au large de Rochefort. Et cette année, l'invité d'honneur était Monseigneur Aupetit. L'année dernière, c'était le nonce apostolique. Silence radio, c'est passé comme une lettre à la poste, hein. On sortait du premier confinement, le nonce arrivait tout juste, hein. L'une de ses premières sorties, ça a été de participer à ce pèlerinage, qui n'est pas totalement anodin, mais personne, ou pratiquement, s'est rendu compte que le nouvel envoyé du pape François participait à un pèlerinage qui, visiblement, cette année, était considéré comme un signe de retour en arrière du catholicisme français, et voilà. Donc, c'est ces deux points qui m'ont paru importants, sur lesquels il m'a paru important de revenir, de voir comment, aujourd'hui, dans l'histoire du catholicisme, quel était le rapport entretenu quel rapport le catholicisme français entretient avec son histoire, et par rapport à sa mémoire historique autour donc, de la Révolution et de la Commune de Paris. Je passe, hein, parce qu'en fait, j'essaie d'improviser, mais voilà. Donc voilà, oui, quelques réflexions que je vais essayer de proposer. Voilà, il n'y a jamais, évidemment, de point de départ aisé. Je vais donc, de manière un peu arbitraire, commencer par la période de la Révolution, qui est peut-être une période que je connais la mieux. Il y a deux points, à mon sens, à aborder. D'une part, donc, les martyrs de la Révolution, et d'autre part, le cas plus particulier de ce pèlerinage à l'île Madame, même si ces questions sont intimement liées. Ce pèlerinage, donc, pour rappel, a lieu chaque année, au mois d'août, depuis un peu plus d'un siècle. C'est un pèlerinage qui est organisé dans un cadre diocésain. Ce n'est pas des petits groupes comme ça qui organiseraient quelque chose dans leur coin, donc c'est quelque chose de tout à fait officiel, mais qui depuis le départ, c'est un prêtre en fait, du diocèse de La Rochelle qui a voulu organiser ça. C'est un historien à ses heures. Il a considéré qu'il fallait rendre hommage à ces prêtres qui, par fidélité au pape, ont choisi de donner leur vie pour leurs fidèles, d'obéir au pape qui, je vais revenir dans un instant, mais en tout cas avait condamné un certain nombre de décisions prises par les autorités révolutionnaires, et ont choisi donc par fidélité de mourir. Pour certains en prison, et d'autres ont été déportés et sont morts donc au large de Rochefort ou donc sur l'île Madame. La participation en fait de l'archevêque de Paris, il faut voir que la question de ce qui a été organisé autour de la commune a suscité donc une importante polémique. Et donc la participation de l'archevêque de Paris cette année a suscité, je ne sais pas si vous faites attention aux réseaux sociaux ou pas, ce n'est pas forcément très passionnant, mais il y a quelques personnalités qui s'imaginent influentes et d'autres qui sont très sensibles à ces personnalités influentes. Et donc la participation de l'archevêque de Paris a suscité un tweet incendiaire, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Martel. Vous avez sans doute entendu parler, pas forcément bien, hein, voilà, parce que c'est l'auteur de Sodoma notamment, un ouvrage tout à fait passionnant. Et Frédéric Martel a pondu un tweet pour expliquer que c'était une grave dérive du catholicisme français actuellement, que cette participation de l'archevêque de Paris, que c'était, il comptait rendre hommage à des prêtres monarchistes et anti-républicains. Et donc, il fallait vraiment que l'Église se ressaisisse. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance. Karine Dalle, qui était la conseillère com de l'archevêque de Paris, qui maintenant est passée à la conférence des évêques de France, lui a fait comprendre, et puis il y a eu quelques réponses d'historiens, pour faire comprendre qu'il n'en était rien, et qu'on pouvait, être à la fois favorable au processus révolutionnaire au départ, et ensuite choisir d'obéir au pape tout en n'ayant pas forcément des sentiments favorables à la monarchie, et que par ailleurs c'était un pèlerinage tout à fait officiel il y a une dizaine d'années il y a eu un archevêque irakien qui a participé à ce pèlerinage. Donc, je sais pas quel était le symbole particulier que voulait faire passer l'Église de France. Il fallait y voir un soutien à Saddam Hussein ou à d'autres personnalités, mais en tout cas, à l'époque, le diocèse de La Rochelle avait dit que c'était un signe d'ouverture aux chrétiens persécutés, aux minorités chrétiennes persécutées dans le monde, et que c'était un signe d'union avec ces catholiques d'autres pays que ce pèlerinage était organisé. Il y a eu cette insistance sur le fait que ce pèlerinage était organisé avec une intention purement et strictement spirituelle, et ce pèlerinage n'a jamais eu, de près ou de loin, d'autres intentions. Cela tient donc au fait, mais en fait, au fait de ce qu'est un pèlerinage, en tout cas sur un lieu marqué d'histoire, un lieu de mémoire, c'est qu'on se on commémore, on se remémore ce qu'il y a eu dans ces lieux, et pardon, mais c'est, j'enfonce une porte ouverte, mais on fait mémoire de ce qui s'est passé en ces lieux, mais non pas pour en repartir en étant vindicatif contre les acteurs de la période, mais simplement, et c'est vraiment un point important qu'il faut bien percevoir, c'est que tout au long en fait, du XXe siècle, je vais y revenir dans un instant, mais quand il y a eu des béatifications ou des canonisations en fait, de martyrs de la Révolution, je pense vraiment à, par exemple, à un discours de Jean-Paul II au moment de la béatification des martyrs d'Angers, en 1984, ce qu'a voulu mettre vraiment en exergue le pape, c'est que les martyrs de la Révolution, ils sont morts par fidélité à leur engagement chrétien, et en l'occurrence pour des prêtres, à leur engagement sacerdotal, par fidélité à leur évêque et au pape. Voilà. C'est ce pourquoi ils sont morts, et il n'y a aucune intention politique derrière. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir dans les participants des personnes qui ont leurs sentiments personnels, voilà, sur les chacun est libre d'avoir les opinions qu'il veut, mais le pèlerinage n'est pas organisé dans cette intention-là. Il n'y a pas d'intention contre-révolutionnaire, de soutien aux idées contre-révolutionnaires lors de ce pèlerinage ou lors de cette mise en valeur des morts de la Révolution. Et quand on lit aussi également les journaux de l'époque, du moment où quand le pèlerinage a été lancé, on est dans les années 1910, et on est dans une période qui est très compliquée, on va dire, pour les catholiques français. On est dans les années, on est quelques années après la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est 1905, et les catholiques pourraient tout à fait organiser ce pèlerinage dans un but de se dire, ben, en fait, il y a un moment où la République va tomber, et en tout cas on espère ça, et en fait, on se commémore toutes les atrocités qui ont été commises au moment de la Révolution. Ce n'est pas dans cette intention-là, c'est simplement pour se rappeler que, à une époque, à un moment donné, il y a des chrétiens qui ont donné leur vie pour les autres, par fidélité en fait, à l'Église. Mais c'est donc, le point qui me semble important par rapport à ce pèlerinage à l'île Madame réside donc dans le contenu de ce pèlerinage qui touche aussi donc, d'autres commémorations catholiques des victimes de la Révolution. C'est un point qui aussi me paraît important par rapport au rapport entretenu en fait, à la mémoire catholique de la Révolution et du discours qui peut être tenu sur les victimes. On rend hommage à des prêtres, certes, qui ont été fidèles à Rome, et ces prêtres sont de manière globale présentés comme étant des prêtres réfractaires. Ce qui est exact, mais plus ou moins. Et on présente aussi donc ces prêtres comme étant des prêtres qui ont été hostiles à la Révolution et monarchistes, c'est ce que je disais il y a un instant. Après, c'est Frédéric Martel, il y en a d'autres qui ont tendance à présenter cet aspect-là dans une partie de l'historiographie républicaine. Ce qui, objectivement, est faux. Je voudrais évidemment apporter quelques précisions, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques historiens, enfin en tout cas étudiants en histoire parmi vous, mais pas forcément au fait de tous les détails de l'histoire de la Révolution, et donc simplement préciser ce qu'on appelle des prêtres réfractaires et donc les prêtres constitutionnels. On appelle prêtres réfractaires ceux qui ont refusé d'approuver la constitution civile du clergé qui a été adoptée donc, par l'Assemblée en juillet 1790. Ce texte adopté par l'Assemblée venait après la nationalisation des biens du clergé en novembre 1789. La constitution civile du clergé va dresser, en fait, toute une partie des catholiques français, du clergé français, contre la Révolution, et cette part des catholiques va être de plus en plus importante au fur et à mesure de l'avancée du mouvement révolutionnaire et de son durcissement. L'un des points litigieux posé par la Constitution civile, c'est le mode d'élection des évêques et également en fait la nomination des prêtres dans les paroisses. Les évêques ne tiennent plus. L'investiture canonique, voilà, du pape. Ce n'est plus leur pouvoir, ne vient plus du pape. S'ils sont élus par le peuple, ils ont leur reconnaissance. En fait, les évêques ne tiennent désormais leur pouvoir que du gouvernement et du fait qu'ils ont été élus au niveau local. Et de la même manière pour les curés. Et par ailleurs, l'autorité de Rome n'est plus reconnue. Plus ou moins, mais en tout cas au départ, c'est ce qui est très clair, qu'il y a la volonté, le souhait de créer une église nationale et à terme, en fait, schismatique, séparée de Rome. Rome n'intervient pas tout de suite. Le pape, donc c'est Pie VI à l'époque, n'intervient pas tout de suite. Et donc il y a un certain nombre de prêtres qui vont, ce qu'on appelle, ils vont prêter serment de fidélité à la Constitution, parce qu'il y a non seulement ce texte qui est adopté, mais le gouvernement de la Révolution demande à ce qu'il y ait, à ce que pour pouvoir assurer le culte de manière légale, on prête un serment de fidélité à la Constitution. Un certain nombre le prête avec un certain nombre de restrictions, en se disant on accepte de prêter ce serment, mais on attend la décision du pape. On ne sait pas exactement ce que le pape en pense, mais en gros, on dit des deux côtés, on dit oui à la révolution, parce que c'est demandé, on attend de savoir ce que le pape va décider. Les plus hostiles parmi les membres du clergé choisissent l'exil. Ils partent en exil, généralement en Italie, dans des territoires qui sont encore possédés par le pape. Le pape Pie VI va se prononcer en mars 1791 par une encyclique, Quod licentum, qui condamne à la fois la constitution civile du clergé, la déclaration des droits de l'homme est condamnée également, et donc l'idée de serment de fidélité à la constitution, du fait qu'il ne reconnaît pas, enfin que l'autorité de Rome n'est pas reconnue, et que les évêques tiennent leur pouvoir non plus du pape, mais du gouvernement civil, tout cela est condamné. À partir de ce moment-là, il va y avoir un durcissement qui va s'opérer à la fois de la part des autorités révolutionnaires et puis aussi des opposants, en tout cas de ceux qui choisissent la fidélité à Rome. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pape condamne, il y a un certain nombre de prêtres qui vont décider de revenir sur leur serment, de refuser de prêter d'autres serments de fidélité. Et donc, pendant un moment quand même, on a deux clergés qui cohabitent. Un clergé qu'on va appeler les réfractaires, ceux qui refusent de prêter serment, mais comme ils sont extrêmement nombreux, les autorités révolutionnaires ne savent pas exactement quoi en faire, et puis Louis XVI est encore roi, il a encore une certaine autorité, donc il y a des décrets qui sont portés contre le clergé réfractaire, mais Louis XVI met son veto. Il suspend en fait l'application des décrets est suspendue. Et en même temps, donc, on a un clergé constitutionnel qui s'établit dans un certain nombre de paroisses parisiennes, hein, et puis partout ailleurs, mais notamment à Paris. Hein, on a Saint-Étienne-du-Mont, et donc c'est l'abbé Grégoire est le plus connu, puisqu'il devient l'un des évêques constitutionnels. Et il exerce notamment sur la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, et puis donc à l'église Sainte-Geneviève, qui est maintenant le Panthéon. Et à partir de d'août 1792 et la chute de la monarchie, les décrets qui étaient suspendus peuvent s'appliquer et beaucoup de prêtres, un certain nombre de prêtres, sont emprisonnés. On a des prêtres qui sont emprisonnés notamment à Paris. Et comme les armées révolutionnaires sont à la frontière et que le sort des armées est incertain, ça va donner les massacres de septembre, donc notamment au Carme, donc à côté de la, juste à côté de l'Institut catholique. Et parce que les fous, le surexcité, imaginent qu'il y a une cinquième colonne. Et donc il faut, c'est le principe des jacqueries ou en tout cas des mouvements non contrôlés. Et on a pendant, je crois, 4 jours, hein, ça dure vraiment très longtemps, beaucoup de prêtres qui sont emprisonnés et qui sont retenus donc notamment à la prison des Carmes et qui sont massacrés. Apparemment, dans ces prêtres, on présente tous ces prêtres comme étant des prêtres réfractaires, mais il y a certains prêtres qui sont pas qui ont été emprisonnés là, non pas par erreur, mais parce qu'on soupçonnait qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait fidèles à la Révolution. Simplement, donc dans ces prêtres, qui sont pour certains présentés comme favorables à la monarchie, ceux qui sont là ont tout simplement choisi la fidélité au siège de Pierre. On m'a dit un jour qu'enseigner, c'était répéter. C'est un prêtre que j'ai entendu un jour dire ça. Enseigner, c'est répéter. Prêcher, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc, vous allez m'entendre sans doute répéter plusieurs fois cette chose qui, moi, me paraît importante dans les discours qui peuvent être tenus sur la Révolution. C'est cette idée de fidélité. Fidélité au siège de Pierre, fidélité des catholiques à Rome. Ils ont été ils ont eu un choix à faire. Et si vous lisez vraiment les textes, enfin les discours des papes lors des béatifications, lors des canonisations, je pense vraiment que Jean-Paul II est un pape extrêmement important. Et du coup, lors des béatifications, les papes ont eu tendance vraiment à mettre ce point en avant, ce pourquoi ces prêtres, il y a des laïcs aussi hein, qui sont béatifiés, c'est parce qu'ils ont choisi la fidélité à leurs engagements de baptême et à leurs engagements de chrétiens. Et donc oui, un certain nombre ont pu fuir. Voilà, ceux qui ont été arrêtés et déportés le plus souvent, en fait, à partir de 1792, sont des simples prêtres, et pour certains même, donc des prêtres constitutionnels, qui, à partir du moment où donc, le pape a condamné la constitution civile du clergé et a interdit de prêter serment, sont revenus en fait sur le serment qu'ils avaient pu prêter. Oui, parler de l'histoire des martyrs de la Révolution, c'est aussi évidemment s'intéresser à l'histoire de cette histoire. Je m'explique. J'ai un très bon collègue à Lyon qui s'appelle Paul Choplin, qui a travaillé sur le clergé constitutionnel, sur l'histoire de la Révolution. Et notamment donc l'histoire à la fois du clergé constitutionnel et l'histoire du clergé réfractaire. Et il relevait des points importants, j'ai pu en parler avec lui il n'y a pas extrêmement longtemps. On considère qu'il faut introduire un peu de complexité en fait dans l'histoire de la Révolution et dans l'histoire du catholicisme de cette époque. Vu par les catholiques. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que les choses sont extrêmement simples, tout est linéaire, qu'il y a eu deux blocs qui se sont constitués, très nets, hein, à la fois depuis le début, des prêtres ont pu être effectivement opposés à la Révolution, ont choisi la fidélité à Rome. Et puis, de l'autre, les prêtres constitutionnels, qui seraient forcément de mauvais prêtres, et sur lesquels il y a toute une histoire à faire, en fait, sur le... non pas cet héritage, mais en tout cas, comment ont été traités ces prêtres dans l'historiographie catholique. Quand Pie VII vient à Paris pour le sacre de Napoléon, je veux dire le couronnement, pour le sacre de Napoléon, il va rencontrer, notamment, il vient à Saint-Étienne-du-Mont, j'espère que vous avez vu la plaque en son honneur, et il va rencontrer l'abbé Grégoire, monseigneur, évêque constitutionnel. Et l'abbé Grégoire essaye de lui faire comprendre que il n'y a pas que l'église réfractaire qui a eu ses martyrs, mais que aussi l'église constitutionnelle, le clergé constitutionnel, il y a eu des prêtres déportés, il y a eu des prêtres qui sont morts à l'île Madame, des prêtres constitutionnels, il n'y a pas que des prêtres réfractaires. Et il y a aussi des prêtres constitutionnels guillotinés, ou en tout cas qui ont été mis en prison. Et l'abbé Grégoire a essayé de faire comprendre à Pie VII que il n'y avait pas. En fait, lui aussi était catholique. En tout cas, que malgré tout ce qu'il avait pu faire pendant la période révolutionnaire, il avait essayé de sauver ce qu'il pouvait l'être, de sauver les meubles. Si je parle de ça, c'est que, oui, c'est ça, voilà, on a souvent tendance à tenir donc, ce discours en noir et blanc, et donc je pense qu'il faut remettre un peu de complexité dans un récit historique qui a pu en manquer souvent. J'aime beaucoup les catholiques, j'aime beaucoup l'histoire, mais il y a parfois une certaine tendance à simplifier les choses parce que c'est une période qui est marquée et qui est une période sanglante et qui est marquée historiquement dans un certain nombre de familles, je connais un dominicain, ses ancêtres ont été guillotinés pendant la Révolution. Je conçois qu'effectivement il n'est pas forcément je pense qu'un certain nombre de familles, tout le monde n'a pas forcément choisi de gaieté de cœur la République. On a dit tout à l'heure que j'avais travaillé sur le ralliement des catholiques à la République. Effectivement, c'est pareil, hein, c'est une période qui reste encore marquée, et notamment parce que dans ceux qui ont choisi de ne pas passer à la République en 1890-1892, il y avait des familles qui étaient encore marquées par cette histoire qui reste encore marquante pour un certain nombre de catholiques. Il y en a qui ont accepté la République, mais en gardant en mémoire le fait que à la Révolution, il y avait des ancêtres qui avaient pu être guillotinés. Je précise, hein, pour qu'on ne se dise pas oulala, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je dis simplement, voilà, ça, c'est que les choses peuvent être plus complexes que... Il y a les gens gentils, hein, et puis les gens qui n'ont pas choisi, parce qu'il y en a, parce qu'ils étaient sous la menace, ils ont choisi effectivement de prêter serment. Il y a eu tout un tas de... En fait, au moment de la signature du concordat avec Napoléon, entre Pie VII et Napoléon, Pie VII a décidé d'envoyer un cardinal, un légat, pour assainir en fait tout ce qui pouvait y avoir comme problème au sein de l'Église de France. Un certain nombre de prêtres qui avaient choisi de quitter les ordres, de prêter serment, et qui ne savaient plus trop bien où ils en étaient dans leur vie sacerdotale, on leur a proposé d'assainir leur situation ou de les réduire, enfin en tout cas de considérer qu'ils étaient de réduire à l'état laïque, et donc ils s'étaient mariés, mais donc on arrangeait les choses, en tout cas on mettait les choses au point, ou alors ils abandonnaient. La situation qui était pas forcément extraordinaire, et ils revenaient à leur situation sacerdotale. J'évoque ça notamment parce qu'il y a eu cette année, je pense que c'est passé assez inaperçu, parce que la presse en a assez peu parlé, je pense, enfin en tout cas la Croix en a très peu parlé, ça n'a pas du tout intéressé, d'autres journaux non plus n'en ont pas parlé. Il y a eu une béatification, maintenant je crois que c'était au mois de mars, de prêtres qui ont été massacrés en Italie par des troupes françaises en 1799. C'est les... Si vous cherchez après sur Internet, ce sont les martyrs de Casamari. C'est dans un monastère de cisterciens. Et dans ces religieux qui ont été assassinés, il y a parmi eux un Français. C'est pour ça que je suis intéressé, c'est intéressant, hein, un nouveau béatifier français. Ce prêtre s'appelle le père Simon ou Siméon Cardon. Et évidemment, le fait m'intéresse notamment pour voilà, ce qui nous intéresse ce soir, c'est que ce prêtre a été présenté comme ayant rejeté la révolution depuis le début, ayant refusé la constitution civile du clergé, alors, étant venu, on le présente comme étant venu à l'Assemblée nationale, et ayant refusé de prêter serment et de remettre ses lettres de prêtrise comme on lui demandait, et de s'être enfui en Italie. Le problème, c'est que l'affaire est un peu plus complexe, on va dire, et pour moi, c'est un symbole de ces parcours qui sont plus compliqués, sur lesquels il faudra que les autorités catholiques reviennent un jour. Voilà, on peut espérer qu'il y ait d'autres travaux historiques qui soient menés. Ça ne remet aucunement en cause l'héroïcité de la mort de ce prêtre qui est mort en voulant défendre le Saint-Sacrement que les troupes françaises en fait voulaient profaner. Ils ont voulu récupérer, enfin voler les vases sacrés. Et ce prêtre s'est interposé, il a refusé, il a défendu le Saint-Sacrement et il en est mort. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de sources, donc tout hagiographique, ont présenté ce prêtre, donc ce parcours de ce prêtre. Et la Congrégation pour la cause des saints a fait un petit texte pour le présenter. Le problème, c'est qu'il y a des sources très identifiables, très, très claires, des sources françaises, sur le sujet où en fait le parcours n'est pas du tout celui-là. Ce prêtre a choisi de prêter serment à la constitution civile du clergé, et non seulement ça, mais il a déposé ses lettres de prêtrise et il est parti, il s'est marié avec une religieuse qui aussi avait quitté, voilà. Donc c'est, voilà, le parcours est complexe. Mais il n'empêche qu'après, effectivement, il est parti en Italie, il est parti à Rome, et il a demandé à se réconcilier avec l'Église. Il a tout remis en ordre, et il est entré chez les Cisterciens à Casamari. Et c'est là qu'il a trouvé la mort. Mais disons qu'il y a une petite parenthèse entre les deux, et qui est, voilà, moi, vous savez, j'aime bien les saints un peu cabossés, hein, j'ai pas mal de défauts, mais notamment celui-là, c'est que effectivement les parcours simples, c'est joli, mais bon, voilà, je me sens plus à l'aise avec effectivement les parcours un peu sinueux. C'est plus intéressant, c'est plus, en tout cas, j'aime bien. Et donc du coup, voilà, ça pour moi, ça illustre, encore une fois, ça remet aucunement en cause. Hein, j'espère, voilà, que ça choque pas, hein, ce que je mette en avant ses aspérités, on va dire, de son parcours. Mais pour moi, le fait que on passe un peu sous silence cet aspect des choses montre qu'il y a encore du travail à faire sur parce qu'il y a une vision, on n'ose pas, en fait. Pour ne pas heurter, on imagine, c'est quelque chose de très compliqué. J'en ai parlé avec des collègues. C'est l'histoire interne, enfin comment le catholicisme se pense et pense son histoire, reste encore complexe, parce que c'est des événements qui sont douloureux, et on préfère, pour éviter de raviver des plaies, on préfère éviter d'aborder ces périodes de front. Et c'est pour moi important qu'on en reparle. Cet état de choses, évidemment, tient aussi à l'histoire en fait, des martyrs de la Révolution. Comment, en fait, progressivement, on en est venu à parler des martyrs. Ce n'est pas quelque chose qui allait de soi. On a commencé, en fait, on n'en a pas parlé pendant, on va dire, pendant trois quarts de siècle, au moment de la restauration, donc de la restauration de la monarchie avec Louis XVIII, on n'en a pas parlé pour éviter de parler de sujets, de questions qui fâchent. Et tout au long du XIXe, on n'en a pas parlé. On a commencé à en parler à partir de 1880, quand les choses commençaient à se tendre, on va dire, quelque peu, entre la République et les catholiques français. 1880, c'est les expulsions des congrégations, un certain nombre de congrégations, les jésuites, puis les dominicains, puis ensuite un certain nombre de congrégations qui prennent le chemin de l'exil. Et donc c'est assez tendu entre la République et les catholiques, et on commence à s'intéresser à l'histoire un peu plus ancienne, en tout cas, des catholiques au moment de la Révolution. Les premières béatifications ont lieu en 1906. Voilà, c'est sous Pilice. C'est là aussi où je trouve intéressant cette histoire des béatifications. C'est que cette question de la mémoire et du lien au politique, c'est que on est au lendemain vraiment de la séparation, et les Carmélites de Compiègne sont béatifiés en mai 1906. On est vraiment dans les premiers mois de la séparation. Pilice aurait pu profiter, vu l'entourage, vu ceux qui étaient à Rome, aurait pu ne pas se priver pour tenir un discours très offensif en disant voilà où ça mène, voilà ce qu'a fait la Révolution à l'époque. Et en fait, non. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice, c'est la fidélité, c'est le don de soi. Je repense encore à ce discours de Jean-Paul II en 1984. Ce sacrifice de ces prêtres, de ces catholiques, nous parle, il vous parle, et il nous exhorte à vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait du catholicisme que nous avons reçu, et il nous incite à la fidélité en fait au catholicisme. J'ai envie de dire, je pense que 184, ça fait 37 ans. Hein, je pense que le message est toujours valable. Il n'a pas pris aucune ride. Et on avance aussi donc dans le XXe siècle, en 1926. 1926, c'est l'année de la condamnation de l'Action française, mouvement dirigé Charles Maurras. La même année, le pape Pie XI béatifie donc les martyrs, certains martyrs de la Révolution, donc les prêtres des Carmes, les prêtres massacrés donc en septembre, les martyrs de septembre 1792 sont béatifiés en 1926. Au même moment qu'ils condamnent l'action française, donc on pouvait imaginer que c'était un rapprochement vers la République. Le pape rappelle, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'a été aussi l'action de, enfin quelles ont été les actions de des révolutionnaires, en tout cas que tout n'a pas été non plus blanc et une période idyllique. Mais donc on continue encore au cours du XXe siècle, et les martyrs d'Angers, donc en 1984, complétés en 1995, puis sous Benoît XVI et le pape François, et notamment le père Salomon Leclerc, qui est mort à Vannes, qui était guillotiné en 1795, et puis la sœur Marguerite Rutan, il me semble que c'est dans les Pyrénées, ou dans le diocèse de Bayonne, donc qui a été béatifiée il y a quelques années, hein, c'est relativement récent. Donc il y a encore des martyrs de la Révolution qui sont béatifiés régulièrement, il y a des causes qui sont reconnues, et donc il y a des béatifications qui ont lieu régulièrement. J'évoquais tout à l'heure la question de la politisation du catholicisme. Si j'évoque aussi donc ces béatifications à la fois par Pie XI, enfin d'abord par Pilis, par Pie XI, puis par Jean-Paul II, Benoît XVI, François, des papes extrêmement différents, on a tendance aujourd'hui à opposer, ou en tout cas à considérer que Benoît XVI aurait certains axes, on va dire, et puis François aurait, serait ouvert à d'autres choses. On ne peut pas considérer que ce sont des béatifications, justement, que ce seraient des béatifications politiques, ce qui est vraiment mis en avant, ce pourquoi ils sont béatifiés, voire canonisés, c'est pour des motifs spirituels, uniquement spirituels. Ces béatifications, l'autre plan, c'est que toutes ces béatifications et ces canonisations sont accompagnées en parallèle, justement parce qu'il y a un certain rapprochement entre les catholiques et la République, et sont accompagnées par une distance toujours plus grande de l'Église de France par rapport, on va dire, aux questions politiques, et d'une certaine manière par rapport à son histoire. Non pas que la politique ait été présente, donc même en 1906, donc, alors qu'on était donc dans les mois de la séparation. Mais on a tenu, et c'est un regret, hein, c'est, en tant qu'historien, personnellement, je regrette effectivement cet ordre des choses, historien et croyant, mais on peut aussi regretter que cet ordre des choses, c'est qu'on a eu tendance de plus en plus à, on va dire, à passer sous silence, en tout cas à évoquer de moins en moins le contexte dans lequel sont morts ces personnalités, toutes ces personnes béatifiées. On sait qu'elles sont mortes sous la Révolution, mais quel était le contexte particulier? Disons que si on connaît l'histoire de la période, c'est parfait, mais Paul Chopelin, donc le collègue lyonnais dont je parlais tout à l'heure, disait la sœur Marguerite Rutan, quand elle a été béatifiée, on ne sait absolument pas pourquoi elle est morte. Frère Salomon Leclerc, il meurt en 1795 à Vannes. Si on n'est pas au courant des détails de l'histoire de la Révolution, on sait juste qu'il y a un prêtre qui est mort à un moment donné et puis il est béatifié, mais point. On a, en fait, pour éviter de raviver des questions douloureuses et de raviver des débats, pour éviter, enfin, en imaginant, en fait, éviter qu'il va y avoir des récupérations politiques, hein, de certains partis, on va dire, eh bien, on a tendance à évoquer, donc, de moins en moins, ces questions historiques. Je vois, en tout cas je perçois effectivement donc aussi donc, ce silence qui s'est instauré plus ou moins. Il y a une certaine tendance ces dernières années à revenir dessus. Monseigneur Aupetit, quand il a participé au pèlerinage à l'île Madame, je crois qu'il a été interrogé par Cateo, il a tenu un discours qui a été enregistré par Cateo, voilà, où il a évoqué en fait explicitement cette question. Donc il semble qu'il y ait au sein de l'épiscopat français, on perçoit cette nécessité de revenir sur cet aspect des choses qui est pas, enfin, que les historiens regrettent. Hein, j'en parlais moi, avec Paul Chopelin. C'est très dommage parce que justement le fait de ne pas évoquer ces questions-là font qu'on n'évoque pas non plus les complexités du catholicisme français à l'époque de la Révolution, et donc les choses sont moins simples que ce qu'on les présente. Et Monseigneur Aupetit a évoqué cette question en disant que on avait eu tendance en fait à oublier en fait de parler du contexte, et qu'il fallait revenir dessus, non pas pour revendiquer quelque chose, mais pour assainir en fait ce passé dont chacun en fait s'accommode bien. Les républicains veut surtout pas en parler, hein, parce que c'est quand même une tâche hein, sur l'action révolutionnaire. Hein, c'est, voilà, on a exécuté des personnes pour des motifs douteux, on va dire, et de la part des catholiques, parce que oulala, on ne sait jamais si on rouvre ce genre de débat, qu'est-ce qui va en sortir. Et pour surtout pas, justement, qu'est-ce que c'est, comme on ne sait pas ce qui va en sortir, on n'ouvre pas la boîte de Pandore. On maintient le couvercle dessus, en disant bon, ce sera le prochain, on lui refilera la patate chaude, et puis surtout on n'en parle pas. Monseigneur Aupetit semble s'être rendu compte de cet aspect, et parce que la réduction, on va dire, à cette espèce de position de surplomb et de retrait sur cette vision strictement spirituelle peut aussi mener à passer à côté de conflits mémoriels. Je vois qu'il est déjà 22h20, donc je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais juste simplement donc, pour dire cette chose de conflit mémoriel, c'est que ce qui s'est passé avec les martyrs de la Commune aurait pu parfaitement être évité s'il y avait eu une réflexion commune avec des historiens. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment des mémoires parallèles et qu'il s'agit de faire communiquer se restreindre à cette vision strictement spirituelle de l'histoire du catholicisme. On ne peut pas faire abstraction des conditions politiques dans lesquelles des événements ont pu avoir lieu. Que ça ait eu lieu au moment de la Révolution ou ce qui a eu lieu au moment de la Commune, tout ce qui a été dit en défense de la procession, de ce qui a été organisé par le diocèse de Paris. Il y a eu beaucoup de choses extrêmement justes, mais il y a eu des choses qui, à mon sens, a manqué. C'est-à-dire qu'on a vu que l'aspect spirituel, mais les événements de la Commune, c'est comme les événements de la Révolution, ne sont pas des événements anodins. On peut pas et encore plus, j'ai envie de dire, pour les événements de la Commune, qui sont des événements de guerre civile, avec un écrasement sanglant, centaines et milliers d'innocents qui ont été massacrés sans raison. Et on ne peut pas non plus laisser l'Église apparaître comme étant le soutien ayant approuvé ces massacres, comme étant le soutien d'un ordre bourgeois et réactionnaire, ce que personnellement je ne pense pas, mais qui, dans la vision d'un certain nombre, parce que ça les arrange bien, parce qu'il faut réfléchir, ça les obligerait à réfléchir de manière complexe et non en noir et blanc, de la part des opposants de l'Église. Certains ecclésiastiques aussi ont tendance à penser de manière trop simple, mais inversement, les opposants à l'Église, ça les évite de débattre et de réfléchir sur dans quelles conditions ont pu avoir lieu ces massacres d'otages. Voilà. Je m'arrête là.
Peut-être qu'on peut prendre vos questions. Merci beaucoup, Martin. Alors, est-ce que chez les historiens ou les autres, il y aurait des questions ? Hildemar, chartiste.
Chartiste, ouais. Oulala, je crains le pire. Je vais faire une réponse en double, c'est-à-dire qu'à la fois, donc, j'ai parlé des hagiographes pour les martyrs, pour les prêtres massacrés donc, en Italie. Donc là, les sources sont assez définies, hein, c'est les cisterciens. Et en fait, pratiquement quand les troupes françaises sont parties, ils ont fait une chronique des événements. Et donc, ils ont fait une chronique assez enjolivée. en expliquant que donc, notamment le père Cardon était Siméon Cardon était arrivé, donc avait au péril de sa vie, avait défendu ce qui était très vrai. Mais simplement, ils ont fait, c'est déjà de leur part, ils ont présenté ce prêtre arrivant comme étant, je crois bien que c'est lui. Parce qu'en fait, après, il y a eu un historien au sein de la congrégation des Cisterciens qui a fait l'histoire de la congrégation. En fait, c'est assez intéressant quand on essaye de recouper, de voir comment en fait on est arrivé à ce texte, au petit texte de la congrégation pour la cause des saints. En fait, on tombe sur un article. Voilà. C'est un article de quelqu'un qui fait partie de la commission historique pour la béatification. C'est le seul article qui existe. C'est un article italien, écrit par un cistercien. Le cistercien fait partie de la commission. Et en fait, l'article, le problème, c'est qu'il n'y a aucune source française. C'est juste le problème. C'est qu'ils n'ont pas du tout travaillé le versant français. C'est pour les algorithmes, c'est effectivement, c'est, non, mais ça peut surprendre. Je sais que Paul Chopin n'en revenait pas. Enfin, il était un peu ciselé en découvrant que ils sont pas au courant. Enfin, il y a un truc, quoi. Bon. Mais encore une fois, s'il est considéré martyr, moi, il n'y a aucun problème. Mais ça ne remet pas en cause sa mort. C'est juste le parcours qui, moi, me. Voilà. Pour les Français, c'est à partir de 1880. On commence à rassembler en fait il y a quelques historiens catholiques, j'ai pas des noms en tête, mais je pense pour le diocèse de Paris, il y a eu un prêtre qui s'appelle le chanoine Pisani, je crois, Pisani, sur le clergé constitutionnel. Il a fait essayé de faire comment on appelle ça, un répertoire de ces prêtres, en essayant de voir à partir des archives, parce que ça, par contre, on a des archives très, très, très précises, hein. C'est le prélat qui est envoyé par Pisset, le cardinal de Caprara, et le cardinal en question a été muni de tous les pouvoirs du pape, on appelle ça un légat à l'atéré, c'est comme s'il était, il représente le pape comme s'il était, il a muni du pouvoir, comme si c'était le pape lui-même, en fait. C'est vraiment le plus haut grade, en tout cas les plus hautes fonctions qui peuvent être accordées à un légat pontifical. Et il avait tout pouvoir pour. Et en fait, il a noté, il a tout noté, hein, tous les rapports. Et puis tous les prêtres qui ont demandé leur régularisation, enfin, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les historiens. Quand vous avez besoin de faire une notice biographique sur un ancien prêtre constitutionnel, c'est un atout. On ne sait pas où ils sont passés, en fait, ils racontent tout leur passage, tout leur parcours. Certains expliquent que. Ils sont entrés dans les ordres, mais qu'en fait, ils n'avaient pas de vocation. Parce que c'était leur famille qui voulait qu'ils deviennent prêtres. En fait, vous comprenez, je suis entré dans les ordres, mais donc en fait, je n'avais pas de vocation. Donc, dès qu'il y a eu la possibilité de me libérer de ce poids, eh bien, je... Bref. Ah, voilà. Et puis d'autres, par contre, ils disent, voilà, mais en fait, je me suis libéré, mais en fait, c'était vraiment sous la pression, vous comprenez, j'ai eu peur de mourir, mais rien fait de mal, je me suis mis avec une femme, mais en fait on n'a rien fait de mal. Donc je pourrais devenir prêtre. Donc voilà, donc on a ça dans les archives, donc ça c'est une source extrêmement précieuse, hein, c'est aux archives nationales. C'est très bien, et puis c'est complété par un certain nombre de données. Mais en tout cas, donc oui, c'est à partir de 1880 qu'on commence à avoir des ouvrages à peu près sérieux. Quoique pour le pèlerinage à une madame, quand ça commence à être lancé, je relais ça sur Gallica, donc les bibliothèques numériques de la DNF. Et non, il y a des ouvrages qui sont très, très drôles, enfin, qui sont écrits dans un style qu'on ne connaît absolument plus aujourd'hui. C'est beau à lire, sans doute, à l'époque, mais tout en étant précisé que, comme ils n'ont pas encore été béatifiés, ces prêtres déportés, eh bien, l'auteur se soumet de grand cœur à la décision que pourra rendre l'Église. Voilà. Donc c'est amusant, c'est des choses qui, enfin, bref, sont plus trop, plus trop courts aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on commence en fait dans les années 50 à vraiment commencer à travailler sérieusement. Mais l'un de ceux qui a vraiment voulu commencer à travailler sérieusement, c'est le père Plongeron. Plongeron, donc les années 1980. Voilà, donc, autour du centenaire en fait, de la Révolution.
S'il y a d'autres questions. Je n'ai pas vraiment une question, mais oui, je trouve que c'est quand même très important, cette problématique que Martin aborde. Hein, c'est un peu le rapport entre histoire et esprit. Parce qu'en fait, on pourrait dire, ce qui compte, c'est le côté « je me donne à Dieu », le martyr, le côté très spirituel, mais un peu désincarné. Bien. Enfin, c'est surtout ça qu'on demande, qu'on met en avant quand on canonise, qu'on béatifie. Puis on ne met pas les mains dans le cambouis, et comme ça, c'est pratique, ça permet d'éviter les querelles. Alors, ça, à plusieurs reprises, vous l'avez dit, puis à la fin, vous avez dit, mais c'est quand même important de comprendre le contexte historique. Et si on ne connaît pas le contexte historique, c'est vraiment le cambouis, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, toutes les aspérités, il nous manque quelque chose. En fait, je crois que c'est ça qui est difficile, hein, c'est que c'est vrai que nous, ce qu'on met en avant, parce que l'Église met en avant, c'est une liberté qui se donne à Dieu, puis aux frères et sœurs, donc ça sent. Notamment dans le martyr, mais pour cette liberté, ça a bien consisté à prendre position dans l'opacité de l'histoire qui était la sienne, hein, qui pouvait être celle de la Révolution. Alors je pense que le travail qu'on fait, qu'on doit faire quand on présente quelqu'un pour être canonisé, c'est pour comprendre le vrai mouvement spirituel, il faut connaître la matière historique sur laquelle la liberté s'est exercée. Mais après, ce qu'on admire, c'est justement comment cette matière historique qui est empreinte du compte à rendre, c'est relatif. Ben, la personne, elle s'est donnée à Dieu, mais d'une certaine manière, en s'appuyant dessus, comme un tremplin. Et c'est ce mouvement-là, c'est le saut qu'on a donné. Et on a bien, il faut bien voir d'où ça part, sinon on ne comprend pas le saut. Mais le but n'est pas de présenter comme modèle cette matière historique. Je vais vous donner un exemple ridicule, mais c'est juste pour faire... Est-ce que ça résume à peu près votre... Donc il faut à la fois admirer, pour bien admirer ce qui transcende les conditions historiques et ce qui forme vraiment le cœur de la canonisation, il faut connaître le contexte. Mais ce qu'on canonise, ce n'est pas le contexte, c'est le mouvement spirituel. Est-ce que ça...
Oui, mais non seulement ça, mais aussi ce n'est pas parce qu'on canonise des victimes de la Révolution qu'il y a des arrière-pensées politique.
Voilà, c'est ce que je dis, on ne canonise pas le contexte.
On ne canonise pas le contexte, ni dans un sens, ni dans un autre.
Ni dans un sens, ni dans l'autre. On a besoin de pour échapper à ce qu'il y a de relatif dans le contexte historique, il faut partir de là. C'est ça, à mon avis, la difficulté. Exemple un peu rigolo, enfin rigolo, mais vous savez, dans l'exact des apôtres, on dit qu'il ne faut pas manger du boudin, ça c'est acte 15. Et en fait, on a des témoignages comme quoi, en Afrique du Nord, par exemple, persécution, je crois, au troisième siècle, je ne connais rien, mais c'était un test à chrétien. On leur disait est-ce que tu veux manger chrétien au lieu du boudin? Je lui disais non, si, oh, j'ai pas trop faim, là. Ça marche bien une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, on se dit quand même, il n'y a jamais faim quand on nous présente du boudin. Ça doit être un chrétien, donc on le zigouille. Alors, oui, moi j'adore le boudin, enfin, surtout les boudins, on voit, il y a des boudins très. Je peux très bien admirer ces chrétiens qui ont su être fidèles à Dieu en refusant le boudin, sans que ça m'empêche, sans que j'ai mauvaise conscience, sans que ça trouble ma digestion du boudin. C'est-à-dire que le but n'est pas de dire, maintenant c'est un peu de Dieu, on a le droit de boudin. On a le droit d'air. C'est ça que je veux dire. Si je ne comprends pas cette histoire de boudin, je ne vois pas pourquoi. En fait, le gars, je ne comprends juste pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est, pourquoi il est mort. Donc, je ne me donne pas les moyens de saisir sa sainteté. Mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui essayer de reproduire ou de prendre position sur le débat du boudin. Enfin, ça serait ridicule de dire aux gens, arrêtez de manger du boudin, c'est comme si vous assassinez une seconde fois ces martyrs africains qui sont magiques. Hein, et donc, ça serait cracher à leur figure. Vous voyez. Alors, je prends un truc, un grand écart, on sent, mais c'est moins aigu que ces polémiques-là, parce que vous le disiez, hein, il y a encore des familles où ça reste encore assez. Mais disons, je dirais, théologiquement, c'est le même problème. Donc, il faut pouvoir combiner connaissance du contexte historique et ce que l'Église fait quand elle canonise, qui est en fait un acte purement spirituel et pas un acte partisan.
Exactement. Mais alors, après, le seul. Il y a un aspect qui effectivement est à retenir, c'est que, parce qu'il y en a qui, je pense directement au journal La Croix.
Oui. Hein,
bon, voilà. J'ai quelques accointances avec ce journal, bon, je connais quelques journalistes qui en font partie. Mais il y a quelque chose qui m'agace beaucoup chez certains catholique, c'est la capacité à avoir peur de son ombre. Et donc, oulala, si on parle des martyrs de la Révolution, si on veut les mettre en avant, en tout cas si on considère qu'ils sont honorés, c'est oulala, mais c'est que vous êtes monarchiste. Vous êtes intégriste, forcément. Donc, non. C'est justement, il faut ne pas avoir peur. C'est justement en connaissant le contexte et les conditions particulières dans lesquelles ils sont morts, se dire, c'est à la fois, c'est essayer de tenir les deux bouts, c'est se dire que c'est la colonisation ou la béatification est dans un but spirituel, c'est il y a un message. Encore une fois, moi j'ai été marqué par ce discours de Jean-Paul II aux martyrs, pour les martyrs d'Angers. Vous allez dire que je radote, mais c'est voilà, il faut bien être marqué par certains textes. Il y a aussi les textes de Benoît XVI qui m'ont beaucoup marqué, mais voilà. Mais c'est vraiment important. Ne pas avoir peur de considérer qu'on peut avoir des modèles, sans effectivement appliquer tout ce qu'ils ont pu faire. On peut être effectivement républicain, enfin vivre avec son temps et en même temps être fidèle à Rome. Ça paraît pas antagoniste. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on rend hommage à des prêtres ou à des catholiques victimes de la Révolution que c'est forcément que qu'on est pour le roi. faut le dire de manière assez schématique.
Voilà. Merci beaucoup, Martin.